Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
Vous écoutez
Geneviève Peterson,
Cube Radio.
Il y a l'auteur Kevin Lambert que j'aime beaucoup qui parle de son parcours du milieu littéraire et de l'écriture queer dans la plus récente édition du magazine Lettres québécoises. Et là, si vous êtes en train de vous demander « c'est quoi ces Lettres québécoises? » Ben, c'est un magazine qui parle de littérature québécoise, ça le dit, et ça fait du bien de lire ça parfois en deux pages de 7 jours. Voici, c'était mon commentaire éditorial. Kevin Lambert est avec nous. Salut Kevin!
Allô, Geneviève.
Hey, merci d'être là, premièrement.
C'est super plaisir.
Non, mais je trouve ça le fun, la nouvelle mouture de Lettres québécoises qui essaie un peu de ratisser plus large, d'aller chercher un autre public avec cette nouvelle facture graphique et toi en couverture. Et bon, là, le thème de ce numéro-là, c'est écrire queer. Mais moi, quand j'ai lu ça, je me suis vraiment demandé c'était quoi écrire queer. Fait que je te pose la question.
Ouais, ben, c'est le paradoxe de ça, c'est que c'est super ouvert. T'sais, dans le fond, le queer, dans le champ intellectuel, on pourrait dire, on le définit comme une remise en question des catégories, en gros, là, pour le dire vraiment vite, là, c'est les catégories de genre, mais c'est aussi toute forme de catégories qui nous asservissent. Donc le queer, c'est ça. Moi, je pense que c'est une notion qui résiste à la définition elle-même puis aux catégories elles-mêmes. Puis c'est ça qui la rend aussi intéressante pour la littérature, parce que la littérature, en un sens, c'est aussi une forme d'art qui critique les lieux communs, qui va jouer dans les zones troubles, dans les zones fluides. Mm. Puis donc, nous, pour nous, écriture queer, on l'a vraiment pris dans un sens très large où on a demandé à des auteurs, en gros, qui sont pas hétérosexuels ou qui sont pas cisgenres, de s'exprimer sur leur rapport à cette question-là, en fait, de manière très libre.
Je trouve ça intéressant, ce que tu dis, Kevin, par rapport aux catégories. C'est comme s'il y avait un certain désir de ta part, quand on lit cet autoportrait que tu as réalisé de toi-même, de troller les catégories. Tu parles notamment de ton amour à l'adolescence pour la littérature de masse, hein, ce qu'on appelle communément les best-sellers. Qu'est-ce que tu aimais?
Ben, je pense que j'aimais qu'on me promette ou qu'on me permette d'entrevoir un monde qui était pas le mien. T'sais, c'était comme une sorte de sortie imaginaire que m'offrait aussi, je pense, le cinéma et tout, mais comme la littérature, c'est nous qui nous faisons nos images et tout, ça me permettait, je pense, encore plus de liberté que les autres formes d'art ou que les jeux vidéo, par exemple, et tout. Puis moi, je projetais beaucoup mon désir dans les œuvres aussi, c'est-à-dire que, tu sais, j'avais un désir gay naissant que j'avais jamais nommé et tout, que je vivais même pas de manière, disons, directe. J'étais à peine conscient de ça, mais dans les livres que je lisais, même si c'était des livres hétéros la plupart du temps, je projetais mon désir là-dedans, puis dans ces mondes-là imaginaires aussi.
T'es-tu en train de me dire qu'il y a une tension homoérotique dans Harry Potter ou dans Amos d'Aragon?
Mais je pense qu'il y a une tension homoérotique partout où on a envie de la voir, tu sais. C'est ça la beauté de la chose. C'est que comme lectrice puis comme lecteur, on est libre de projeter nos désirs puis nos envies, nos fantasmes dans les livres. Ça fait partie de la magnifique liberté de la lecture.
Ouais, puis en même temps, je pense que tu le dis sans gêne, il y a certains titres en littérature qu'on attribue davantage à un genre ou à un autre. Puis là, je parle pas du genre littéraire, là. Je veux qu'on parle de la question des livres de filles. Toi, tu t'es fait niaiser au secondaire parce que tu lisais des livres de filles, Kevin Lambert?
Ouais, je me faisais tu sais, parce que les gens les avaient pas lus de ma mère, fait que c'était juste la couverture, tu sais, quand tu lisais un livre avec une fille dessus, tu sais, je disais Ewilan ou je disais Sally Lockhart par exemple, ceux que je me souviens le mieux c'est ceux-là, mais c'est comme si automatiquement, tu sais, dans l'espèce d'univers dans lequel j'étais, un jeune garçon ou un jeune enfant qui était considéré comme un garçon pouvait pas s'identifier à un personnage, à un protagoniste féminin dans un livre, tu sais. C'était comme le préjugé qui était.
Ben, on est encore là-dedans, je pense.
Ben oui, puis je pense que tu sais, je veux dire, il y a toute une partie aussi de la littérature qui table là-dessus, là. Tu sais, je veux dire, quand tu vas chez Renaud Bré, il y a encore beaucoup de livres qui sont roses et bleus, puis les roses, c'est pour les filles.
Ben, le dictionnaire des filles, là, ça, c'est épouvantable. Moi, une fois, ma mère a acheté ça à mon enfant, puis j'étais là, non. Pas.
C'est l'exemple le plus caricatural peut-être de ça.
Une chose que tu dis dans ton autoportrait qui m'a beaucoup plu, puis j'aimerais qu'on élabore un peu là-dessus, tu dis « La littérature est une marchandise comme les autres et c'est merveilleux. » Puis ça m'a rendu ça m'a rendu contente de lire ça. Parce qu'il y a quand même un certain snobisme autour des livres. On dirait qu'il y a les vrais livres puis les autres.
Ouais. Ben oui, mais tu sais, je voulais. En fait, cette phrase-là, c'est surtout pour restituer la manière dont je percevais les choses quand j'étais enfant.
Oui.
Aujourd'hui, je sais pas si j'aurais envie de dire que la littérature est une marchandise comme les autres, parce que pour moi, elle a plus de valeur que les autres et tout. Mais cela dit, ça reste une marchandise pour moi. On peut pas nier, à mon avis, que le livre est une marchandise.
Mais c'est une industrie.
Dans un. On peut dire, c'est ça. On peut dire, dans l'idéal, il faudrait que il puisse y échapper ou il puisse y avoir des formes qui permettent de lutter contre sa marchandisation trop extrême ou contre la compétition, par exemple, tu sais, comme contre les notions du commerce, là.
Ouais.
Mais ça reste quand même une marchandise aujourd'hui. Mais quand j'étais petit, moi, pour moi, c'était vraiment un objet de consommation. Livres, notamment parce que je les achetais au Costco, mes livres, je les achetais au Walmart. Tu sais, c'était pas, ben, aussi dans les librairies, là.
Ouais, Archambault. Ouais, arrête, là, tu vas te mettre les librairies indépendantes à dos. On t'allait au bouquiniste à Chicoutimi.
Ben non, mais je vais juste, aujourd'hui, tu sais, je suis conscientisé puis je vais juste dans les librairies indépendantes, tu sais. Mais quand j'étais enfant, je l'étais pas, mais pour moi, il est quand même pas question de dire, de nier cette partie-là, tu sais, de nier que ça fait partie de mon parcours, puis que j'ai aussi découvert la littérature par le Costco, tu sais, puis pour moi, ça serait un problème aussi de faire semblant que c'est pas vrai, puis de réécrire l'histoire, puis de dire non, j'ai découvert Balzac dans une librairie indépendante.
Puis en même temps, pourquoi on est toujours en train de juger les auteurs ou les autrices qui sont vendus au Costco ou au Walmart? Moi, j'ai l'impression qu'il y a un certain snobisme aussi de la part du milieu littéraire, notamment sur les auteurs qui vendent beaucoup, qui réussissent. Toi, tu connais un certain succès en France avec Querelle de Robertval. Ton premier livre, Tu aimeras ce que tu as tué, a connu aussi beaucoup de succès critiques. T'as gagné des prix. Est-ce que le succès, tu penses, ça change la vision du milieu littéraire par rapport aux auteurs?
Sûrement un peu, mais je pense que c'est comme la distinction entre littérature, entre guillemets, puis littérature pop est encore très forte dans le milieu littéraire.
On en a-tu besoin d'une?
Moi, je pense qu'on en a pas besoin, mais ça le dit, j'ai pas envie d'excuser complètement les auteurs et les autrices de littérature pop, parce que je pense qu'ils l'entretiennent quand même, cette distinction-là, puis qu'il y a une espèce de snobisme dans l'autre sens aussi, ou une sorte de complaisance. Mais quand, tu sais, moi, j'en lis de la littérature pop, puis j'en ai lu beaucoup aussi, mais tu sais, on va se le dire, là, c'est pas tout le temps bon. Puis souvent, il y a vraiment des gros stéréotypes qui sont là, puis tu sais, c'est vraiment des fois fait de manière paresseuse, puis des fois, c'est très bon, ça l'a dit, tu sais. Mais je pense que là aussi, la littérature pop, si elle veut un jour qu'on défasse cette opposition-là qui sert à rien, puis contre laquelle je m'élève. Je pense que la littérature pop a un examen de conscience à faire, comme le milieu littéraire, disons plus snob, a un examen aussi à faire.
Il y a quelque chose qui m'a vraiment frappé quand j'ai ouvert Lettre québécoise, premièrement. Bon, il y a la couverture, il y a cette photo de toi, ces portraits à l'intérieur. Et je me suis dit, enfin, parce que on photographie souvent les autrices femmes d'une certaine façon. T'sais, on fait des shootings qui sont, à mon sens, plus éditoriaux. T'sais, on nous demande vraiment de poser. Et toi, dans ce shooting-là, tu poses. C'est rare qu'on voit ça, des photos d'un auteur masculin comme ça, des photos glamour, où en quelque sorte, t'es un peu objectifié. Je le dis pas dans le mauvais sens. Tu comprends ce que je veux dire? Mais est-ce que c'est voulu?
Ben écoute, on l'avait pas pensé comme ça, mais je trouve ça super intéressant que tu le dises. Puis je suis assez d'accord avec ta lecture, en fait. Puis mais nous, en fait, on a fait affaire avec une photographe. Fait que, tu sais, c'est un peu une démarche artistique. Ben en fait, c'est pas un peu, c'est une démarche artistique, là, les photos. Puis une démarche artistique qui était pas la mienne, dans laquelle j'étais un objet, t'as raison. Puis mais il y a un certain plaisir, moi, que j'ai pris à être juste à me prêter au jeu, tu sais, puis au jeu de rôle. Puis c'était une sorte de travail collectif, au fond, où Annabelle avait des idées, il y avait une styliste qui avait des idées, puis la photographe...
Annabelle Moreau, la rédactrice en chef du magazine.
Oui, Annabelle, c'est ça, excusez, je l'ai pas présenté, mais je prenais pour acquis que tout le Québec la connaît.
On la connaît.
Mais donc, la photographe, Oumaima Bétanfout, c'est ça, c'est son travail de création aussi, de créer une sorte d'univers, c'est un truc, je trouve, souvent qui est récurrent, c'est que on dirait que dans les photos, on voit juste le portrait comme quelque chose de transparent, tu sais. Mais comme tu dis, c'est mise en scène, des photos toujours. Même quand les gens ont l'air sérieux, il y a une mise en scène.
Je trouvais que c'était intéressant dans l'optique où tu parles du masque aussi dans ton autoportrait, de la façon dont on se met en scène sans arrêt.
Exact. Puis même un travail de création, tu sais, qui est chez les photographes. Les photographes, ils ont pas souvent pas beaucoup de reconnaissance pour les portraits qu'ils font, tu sais. Donc non, ouais, je trouvais ça intéressant aussi. Puis c'est ça, c'est à la fois bizarre parce que tu te vois sous un angle que tu ne vois jamais, tu sais, mais en même temps, ça me fait plaisir. Je me vois un peu comme un étranger ou comme un personnage dans ces photos-là.
Mais tu dis aussi que dans une certaine mesure, la révolte fait naître le langage. Est-ce qu'il faut être en crise de quelque chose pour pouvoir écrire, tu penses?
Ben, pour moi, ça s'est beaucoup passé comme ça au début.
Ouais, parce que quand même, tu aimeras ce que tu as tué, c'est un titre assez qui
va. C'est un livre dans lequel c'est ça, le narrateur fait exploser Choutini. Donc, il y avait une certaine colère que j'ai transformée et avec laquelle j'ai joué, mais moi il y a toujours eu un côté, puis il y a encore un côté révolté dans l'écriture. C'est-à-dire que moi, c'est ce qui me motive. Peut-être que d'autres auteurs auraient une autre réponse, peut-être que toi, tu aurais une autre réponse, je sais pas, mais pour moi, on dirait que c'est comme essentiel d'avoir une sorte de révolte politique pour écrire.
Je vous invite vraiment beaucoup à aller lire ce nouveau numéro de Lettres québécoises, c'est le numéro d'automne avec notre fabuleux Kevin Lambert en couverture. Un auteur qui nous rend fier. Tu veux dire quoi? Mais non, il n'y a pas juste toi, mais là, je te parle à toi. Il faut le lire pour savoir.
Oui, mais je voulais dire qu'il y a plein d'autres auteurs. C'est comme
et des autrices.
Des autrices, oui, c'est ça, auteur.e. Mais puis des auteurs, des autrices vraiment fabuleuses. Puis des gens connus, des gens moins connus, des gens qui ont une œuvre établie, des gens qui commencent à écrire. Donc, je suis vraiment content de la diversité des voix qu'il y a dans ce dossier-là. C'est vraiment fantastique, je trouve.
Très bien. Je rappelle le titre de tes livres, Tu aimeras ce que tu as tué et Querelle de Robert Val qui est publié en France. Merci, Kevin. C'est un plaisir.
Ben, merci, Geneviève. À la prochaine.
Bye.